Chapitre 11. Enfin, vous voulez-vous savoir combien leur vie est courte? Voyez combien ils désirent de la prolonger. Des vieillards décrépits demandent à main jointe quelques années de plus. Ils se font plus jeunes qu'ils ne sont, et se berçant de ce mensonge, ils le soutiennent aussi hardiment que s'ils pouvaient tromper le destin. Mais si quelque infirmité vient leur rappeler leur condition mortelle, ils meurent remplis d'effroi. Ils ne sortent pas de la vie, ils en sont arrachés. Ils s'écrient qu'ils ont été insensés de n'avoir point vécu. Que seulement ils réchappent de cette maladie, comme ils vivront dans le repos. Alors, reconnaissant la vanité de leurs efforts, pour se procurer des biens dont ils ne devaient pas jouir, ils voient combien tous leurs travaux furent impuissants et stériles. Mais pour celui qui l'a passé loin de toute affaire, combien la vie n'est-elle pas longue? Rien n'en est sacrifié, ni prodigué à l'un et à l'autre. Rien n'en est livré à la fortune, perdue par négligence, retranchée par prodigalité. Rien n'en demeure superflu. Tous ces moments sont, pour ainsi dire, placés à intérêt. Quelque courte qu'elle soit, elle est plus que suffisante et aussi, lorsque le dernier jour arrivera, le sage n'hésitera pas à marcher vers la mort d'un pas assuré. Chapitre 12. Vous me demanderez peut-être quels sont les hommes que j'appelle occupés. Ce nom, ne croyez pas que je le donne seulement à ceux qui ne sortent des tribunaux que lorsque les chrétiens viennent les en chasser. Non, 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 ni à ceux que vous voyez honorablement étouffés par la multitude de leurs courtisans ou foulés avec mépris par les clients des autres, ni à ceux que d'obséquieux devoirs arrachent de leur maison pour aller se presser à la porte des grands, ni à ceux qui, la baguette du prêteur, adjuge un profit infâme et qui sera pour eux quelques jours comme un chancre dévorant. Non, il est des hommes dont le loisir même est affairé. À la campagne, dans leur lit, au milieu de la solitude, quoique éloignés du reste des hommes, ils sont insupportables à eux-mêmes. La vie de certaines gens ne peut être appelée une vie oisive, c'est une activité paresseuse. Appelez-vous oisif celui qui, avec une attention inquiète, s'occupe à ranger symétriquement des vases de Corinthe, que la folle manie de quelques curieux a rendu précieux, et qui passe la plus grande partie de ses jours à polir des laines couvertes de rouille, ou celui qui, au gymnase, car, ô déprobation, nous ne sommes pas infectés seulement des vices romains, va pour contempler les jeunes combattants s'installer dans le lieu même où ils se frottent d'huile, celui qui s'amuse à assortir par compagnie, selon leur âge et leur couleur, les champions accoutumés à vaincre, celui qui nourrit la voracité des athlètes les plus en renom, direz-vous livrés au repos, ceux qui passent tant d'heures chez un barbier pour se faire arracher le moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit, pour tenir conseil sur chaque cheveu, pour qu'on relève leur coiffure abattue et qu'on ramène également de chaque côté du front leurs cheveux clairsemés. Comme ils se mettent en colère si le barbier, croyant avoir affaire à des hommes, met à les raser quelque négligence. Comme ils pâlissent de courroux s'il leur a coupé les faces d'un peu trop près. Si quelques cheveux dépassent les autres, si tous ne tombent pas en boucle bien égale. Est-il un seul d'entre eux qui n'aime mieux voir sa patrie en désordre que sa coiffure, qui ne soit plus inquiet de l'ajustement de sa tête que de sa santé, qui ne préférera être bien coiffé comme de bien? Appelez-vous oisif ces hommes toujours occupés entre le peigne et le miroir? Que sont donc ceux qui ont l'esprit sans cesse tendu à composer, entendre et réciter des chansons, qui, forçant leur voix formée par la nature à rendre des sons simples et faciles, lui font exécuter les modulations apprêtées d'une languissante mélodie, Leurs doigts marquent sans cesse la mesure de quelque air qu'ils ont dans la tête, et même au milieu d'affaires sérieuses, dans des circonstances tristes, ils font entendre un léger fredonnement. Ces gens-là ne sont pas oisifs, mais inutilement occupés. Et certes, je ne regarderai pas leur festin comme des moments de repos, quand je vois avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle. Quelle importance ils mettent à ce que les tuniques de leurs échansons soient relevées avec grâce. Combien ils sont inquiets sur la manière dont un sanglier sortira des mains d'un cuisinier. Avec quelle célérité leurs esclaves bien épilés savent au signal donné s'acquitter de leurs services divers, avec quel art la volaille est découpée en menus morceaux, avec quel soin de malheureux esclaves font disparaître les dégoûtantes sécrétions des convives. C'est ainsi qu'on se fait une réputation de magnificence et de délicatesse. Les vices de ces gens-là les accompagnent si constamment dans tous les moments de leur vie qu'ils mettent même dans le boire et dans le manger une ambitieuse vanité. Vous ne compterez pas sans doute parmi les oisifs ces hommes lâches et mous qui se font promener de côté et d'autre en chaise et en litière et qui, pour se faire porter ainsi, comme si l'obligation en était indispensable, ne manquent jamais leur marquer, qui ont besoin qu'on les avertisse du moment où ils doivent se laver, aller au bain ou souper. Si profonde est la mollesse où languit leur âme, qu'ils ne peuvent savoir par eux-mêmes s'ils ont appétit. J'ai ouï dire qu'un de ces voluptueux, si toutefois on peut nommer volupté ce complet oubli de la manière de vivre qui convient à l'homme, au moment où plusieurs bras l'enlevaient du bain et le plaçaient sur un siège, demanda « Suis-je assis ?» Et cet homme, qui ignore s'il est assis, pensez-vous qu'il puisse mieux savoir s'il vit, s'il voit, s'il est en repos? Je ne saurais dire s'il mérite plus de pitié pour être capable d'une telle ignorance que pour l'affecter. Car si ces gens-là oublient réellement bien des choses, ils feignent aussi d'en oublier beaucoup. Certains vices les charment comme la preuve d'une situation brillante. Il n'appartient qu'à un homme obscur et méprisable de savoir ce qu'il fait. Allez maintenant, dire que nos mimes changent le tableau quand ils tournent en ridicule les excès de notre luxe. À coup sûr, ils en oublient beaucoup plus qu'ils n'en inventent. Oui, dans ce siècle ingénieux seulement pour le mal, les vices, chaque jour plus nombreux, ont pris un essor si incroyable que l'on devrait plutôt accuser nos mimes d'en affaiblir la peinture. Quoi, il existe un homme tellement énervé par les plaisirs qu'il ait besoin d'apprendre d'un autre s'il est assis. Un tel homme n'est point oisif, il faut lui donner un autre nom. Il est malade, bien plus il est mort. Celui-là est oisif qui a le sentiment de son oisiveté, mais l'homme qui a besoin d'un autre pour connaître la position de son corps, comment pourrait-il être la maître de quelque portion de son temps? Chapitre 13. Il serait trop long de parler de ceux qui ont passé toute leur vie à jouer aux échecs, à la paume ou à exposer leur corps aux ardeurs d'un soleil brûlant. Ils ne sont point oisifs, ceux à qui les plaisirs donne beaucoup d'affaires. Personne ne doute que ceux qui s'appliquent à d'inutiles études littéraires ne se donnent beaucoup de peine pour ne rien faire. Le nombre en est déjà assez grand chez nous autres Romains. C'était la maladie des Grecs de chercher quel était le nombre des rameurs d'Ulysse, si l'Iliade fut écrite avant l'Odyssée, si ces deux poèmes étaient du même auteur, et d'autres questions de cette importance qui, à les garder pour vous, ne peuvent vous procurer aucune satisfaction intérieure et que vous ne sauriez communiquer aux autres sans leur paraître non pas plus savants mais plus ennuyeux. Ainsi, ne voient-ils pas les Romains possédés de cette étrange manie d'acquérir de vaines connaissances? J'ai entendu ces jours derniers un certain philosophe rapporter ce que chacun des généraux romains avait fait le premier. Dullius avait le premier vaincu sur mer, et le premier, Curius Dentatus, montrait des éléphants dans son triomphe. Encore que ces connaissances ne mènent pas à la vraie gloire, elles tentent du moins à nous faire connaître par des exemples les exploits de nos concitoyens. Une telle science n'est guère profitable, mais non moins de sa futilité, elle a dans son objet quelque chose de spécieux. Apprenons à ceux qui aiment ces sortes de recherches quel fut le premier qui engagea les Romains à monter sur un vaisseau. Ce fut Claudius, surnommé pour cette raison Caudex, nom que les anciens donnaient à un assemblage de plusieurs planches. D'où les tables publiques où sont inscrites nos lois ont été appelées codes. Et de nos jours encore, les bateaux qui de temps immémorial apportent à Rome ses subsistances par le Tibre s'appellent codicaires. Il est sans doute bien important de savoir que Valerius Corvinus s'empara le premier de la ville de Messana et fut le premier de la maison Valeria qui, en prenant son nom d'une ville prise, fut appelée Messana, puis vulgairement Messala au moyen du changement d'une lettre. Permis aussi de chercher à savoir que Lucius Silla présenta le premier dans le cirque des lions en liberté, tandis qu'auparavant ils étaient attachés et que le roi Bocchus envoya des archers pour les tuer. Eh bien, passe encore pour cela. Mais que Pompée ait donné le premier au peuple à combat de 18 éléphants contre des malfaiteurs, quel avantage peut-on tirer de la connaissance de ce fait? Le premier citoyen de Rome, que son extrême bonté a fait comparer à nos anciens héros, crut donner un spectacle mémorable en inventant un nouveau moyen de faire périr les hommes. Ils combattent, c'est peu. Ils sont criblés de coups, ce n'est point encore assez. Il faut de plus qu'ils soient écrasés par l'énorme masse des éléphants. Mieux valait laisser de pareilles actions dans l'oubli, pour empêcher que quelque homme puissant ne les connût dans la suite et n'enchérit sur ces actes que réprouve l'humanité. Oh, quelle profonde ténèbre répand dans l'esprit des mortels une grande prospérité. Pompée se croyait au-dessus de la nature lorsqu'il exposait en infortuné à la fureur des bêtes féroces, nées sous un autre ciel, lorsqu'il mettait aux prises des combattants de forces disproportionnées et versait les flots de sang sous les yeux du peuple romain, il devait bientôt forcer d'en répandre davantage. Et plus tard, ce même homme, victime d'une affreuse perfidie de la part des Alexandrins, présenta sa tête au fer du dernier des esclaves et comprit alors sans doute le vain étalage de son surnom. Mais, pour revenir au sujet dont je me suis écarté, je vais encore exposer les inutiles efforts de quelques hommes sur des objets différents. Le même savant racontait que Metellus, après sa victoire sur les Carthaginois en Sicile, fut le seul de nos généraux qui fit marcher devant son char de triomphe 120 éléphants captifs. Que Sylla fut le dernier des Romains qui agrandit l'enceinte de la ville, ce qui, chez nos ancêtres, ne se pratiquait jamais qu'à la suite de la conquête de quelques territoires en Italie et non dans les provinces. Il est cependant plus utile de savoir cela que d'apprendre que le mont Aventin était en dehors des murs pour l'une de ces deux raisons, ou que le peuple s'y était retiré autrefois, ou que Rémus, s'étant placé sur cette montagne pour considérer le vol des oiseaux, les auspices ne lui avaient pas été favorables. Enfin, il est une infinité d'autres traditions de ce genre qui sont des fictions ou ressemblent à des mensonges. mais en accordant que ce qu'ils reproduisent soit de bonne foi, et prêts à les appuyer par des preuves, de qui pourront-elles corriger les travers ou réprimer les passions? Qui rendront-elles plus courageux, plus justes, plus libérales? Notre ami Fabianus doutait s'il ne valait pas mieux ne rien apprendre que de s'embarrasser de pareilles études. Chapitre 14. Ceux-là seuls jouissent du repos qui se consacre à l'étude de la sagesse. Seuls ils vivent, car non seulement ils mettent à profit leur existence, mais ils y ajoutent celle de toutes les générations. Toutes les années qui ont précédé leur naissance leur sont acquises. À moins d'être tout à fait ingrats, nous ne pouvons nier que les illustres fondateurs de ces opinions sublimes ne soient nés pour nous et ne nous aient préparé la vie. Ces admirables connaissances qu'ils ont tirées des ténèbres mises au grand jour, c'est grâce à leurs travaux que nous y sommes initiés. Aucun siècle ne nous est interdit. Tous noirs sont ouverts, et si la grandeur de notre esprit nous porte à sortir des entraves de la faiblesse humaine, grand est l'espace de temps que nous pouvons parcourir. Je puis discuter avec Socrate, douter avec Carnéade, jouir du repos avec Épicure, avec les stoïciens, vaincre la nature humaine, avec les cyniques, dépasser sa portée, enfin marcher d'un pas égal avec la nature elle-même, être contemporain de tous les siècles. Pourquoi, de cet intervalle de temps si court, si incertain, ne m'élancerais-je pas vers ces espaces immenses, éternels, qui me mettraient en communauté avec les meilleurs des hommes? Les insensés qui, sans cesse en démarche pour rendre de vains devoirs, tourmentant pour eux et pour les autres, se seront livrés tout à leur aise à leur manie, auront été frappés chaque jour à toutes les portes, n'auront passé outre devant aucune de celles qu'ils auront trouvées ouvertes, et auront colporté dans toutes les maisons leurs hommages intéressés. Combien de personnes auront-ils pu voir dans cette ville immense et agitée de tant de passions diverses? Combien de grands dont le sommeil et les débauches ou la dureté les auront éconduits? Combien, après les ennuis d'une longue attente, leur échapperont en feignant une affaire pressante? Combien d'autres, évitant de paraître dans le vestibule rempli de clients, s'échapperont par quelque issue secrète, comme s'il n'était pas plus dur de tromper que de refuser sa porte? Combien, à moitié endormis et la tête encore lourde des excès de la veille, entr'ouvriront à peine les lèvres pour balbutier avec un bâillement dédaigneux le nom mille fois annoncé de ces infortunés qui ont hâté leur réveil pour attendre celui des autres. Ceux-là, nous pouvons le dire, s'attachent à leur véritable devoir, qui, tous les jours, ont avec les Zénon, les Pythagore, les Démocrite, les Aristote, les Théophraste et les autres précepteurs de la morale et de la science, des relations intimes et familières. Aucun de ces sages qui n'ait le loisir de les recevoir, aucun qui ne renvoie ceux qui sont venus à lui, plus heureux et plus affectionnés à sa personne, aucun qui souffre que vous sortiez d'auprès de lui les mains vides. Nuit et jour, leur accès est ouvert à tous les mortels. Chapitre 15. Nul d'entre ces philosophes ne vous forcera de mourir. Tous vous apprendront à quitter la vie, aucun ne vous fera perdre vos années, chacun y ajoutera les siennes. Nul ne vous compromettra par ses discours, nul n'exposera vos jours par son amitié et ne vous fera chèrement acheter sa faveur. Vous retirerez d'eux tout ce que vous voudrez, et il ne tiendra pas à eux que plus vous aurez puisé à cette source abondante, plus vous y puisiez de nouveau. Quelle félicité, quelle belle vieillesse sont réservées à celui qui s'est mis sous leur patronage. Il aura des amis avec lesquels il pourra délibérer sur les plus grandes comme sur les plus petites affaires, recevoir tous les jours des conseils, entendre la vérité sans injure, la louange sans flatterie, et les prendre pour modèle. On dit souvent qu'il n'a pas été en notre pouvoir de choisir nos parents, que le sort nous les a donnés. Il est pourtant une naissance qui dépend de nous. Il existe plusieurs familles d'illustres génies. Choisissez celle où vous désirez être admis. Vous y serez adopté, non seulement pour en prendre le nom, mais les biens. Et vous ne serez point tenu de les conserver en homme avare et sordide. Ils s'augmenteront au fur et à mesure que vous en ferez part à plus de monde. Ces grands hommes vous ouvriront le chemin de l'éternité et vous élèveront à une hauteur d'où personne ne pourra vous faire tomber. Tel est le seul moyen d'étendre une vie mortelle et même de la changer en immortalité. Les honneurs, les monuments, tout ce que l'ambition obtient par des décrets, tous les trophées qu'elle peut élever s'écroulent promptement. Le temps ruine tout et renverse en un moment ce qu'il a consacré. Mais la sagesse est au-dessus de ses atteintes. Aucun siècle ne pourra ni la détruire ni l'altérer. L'âge suivant et ceux qui lui succéderont ne feront qu'ajouter à la vénération qu'elle inspire, car l'envie s'attache à ce qui est proche, et plus volontiers l'on admire ce qui est éloigné. La vie du sage est donc très étendue. Elle n'est pas renfermée dans les bornes assignées au reste des mortels. Seul il est affranchi des lois du genre humain. Tous les siècles lui sont soumis comme à Dieu. Le temps passé, il en reste maître par le souvenir. Le présent, il en use. L'avenir, il en jouit d'avance. Il se compose une longue vie par la réunion de tous les temps en un seul. Chapitre 16. Mais combien est courte et agitée la vie de ceux qui oublient le passé, négligent le présent et craignent pour l'avenir. Arrivés au dernier moment, les malheureux comprennent trop tard qu'ils ont été si longtemps occupés à ne rien faire. Et de ce qu'ils invoquent quelquefois la mort, n'allez pas en conclure que leur vie soit longue. Leur folie les agite de passions désordonnées, qui les précipitent même vers ce qu'ils craignent. Aussi ne désirent-ils souvent la mort que parce qu'ils la redoutent. Ne regardez pas non plus comme une preuve qu'ils vivent longtemps, si le jour souvent leur paraît long et qu'en attendant le moment fixé pour leur souper, ils se plaignent que les heures s'écoulent avec lenteur. Car si quelquefois leurs occupations les quittent, ils sont tout accablés du loisir qu'elles leur laissent. Ils ne savent ni comment en faire usage, ni comment s'en débarrasser. Aussi cherchent-ils une occupation quelconque, et tout le temps intermédiaire devient un fardeau pour eux. Cela certes est si vrai que si un jour a été indiqué pour un combat de gladiateurs ou si l'époque de tout autre spectacle ou divertissement est attendue, il voudrait franchir tous les jours d'intervalle. Tout retardement à l'objet qu'ils désirent leur semble long, mais le moment après lequel ils soupirent est court et fugitif et devient encore plus rapide par leur faute. Car d'un objet, ils passent à un autre, et aucune passion ne peut seule les captiver. Pour eux, les jours ne sont pas longs, mais insupportables. Combien, au contraire, leur paraissent courtes les nuits qu'ils passent dans les bras des prostituées et dans les orgies. Aussi, les poètes, dont le délire entretient par des fictions les égarements des hommes, Ont-ils faim que Jupiter, enivré les délices d'une nuit d'adultère, en doubla la durée? N'est-ce pas exciter nos vices que de les attribuer aux dieux et de donner pour excuse à la licence de nos passions les excès de la divinité? Pourraient-elles ne leur point paraître courtes ces nuits qu'ils achètent si chères? Ils perdent le jour dans l'attente de la nuit, et la nuit dans la crainte du jour. Chapitre 17. Leurs plaisirs mêmes sont agités, ils sont en proie à mille terreurs, et au sein de leur jouissance, cette pensée importune se présente à leur esprit. Mais combien ce bonheur doit-il durer? Triste réflexion qui a souvent fait gémir sur leur puissance les rois, moins satisfaits de leur grandeur présente qu'effrayés de l'idée de son terme. Lorsque dans des plaines immenses Xerxès déployait son armée tellement nombreuse que ne pouvant en faire le dénombrement, il la mesurait par l'étendue du terrain qu'elle couvrait, ce monarque, si orgueilleux, ne put retenir ses larmes, en songeant que de cette multitude d'hommes à la fleur de l'âge, aucun n'existerait dans 100 ans. Mais lui, qui pleurait ainsi, il allait dans un bien court intervalle faire périr, soit sur terre, soit sur mer, dans le combat ou dans la fuite, ces mêmes hommes pour lesquels il redoutait la révolution d'un siècle. Mais, que dis-je, leurs joies mêmes sont inquiètes, car elles ne reposent pas sur des fondements solides. La même vanité qui les fait naître les trouble. Que doivent être, pensez-vous, les moments de leur vie, qui de leur aveu même sont malheureux, si ceux dont ils s'enorgueillissent et qui semblent les élever au-dessus de l'humanité sont loin de leur offrir un bonheur sans mélange? Les plus grands biens ne sont point exempts de sollicitude, et la plus haute fortune doit inspirer le moins de confiance. Le bonheur est nécessaire pour conserver le bonheur, et les vœux exaucés exigent d'autres vœux. Tout ce que donne le hasard est peu stable, et plus il vous élève, plus haut il vous suspend au bord du précipice. Or, personne ne doit se complaire à des biens si fragiles. Elle est donc non seulement très courte, mais aussi très malheureuse, la vie de ceux qui se procurent avec de grands efforts ce qu'ils ne peuvent conserver qu'avec des efforts plus grands encore. Ils acquièrent avec peine ce qu'ils désirent et possèdent avec inquiétude ce qu'ils ont acquis. On ne tient cependant aucun compte d'un temps qui ne doit plus revenir. À d'anciennes occupations, on en substitue de nouvelles. Un espoir accompli fait naître un autre espoir. L'ambition provoque l'ambition. On ne cherche point la fin des peines. Seulement, on en change l'objet. Sait-on tourmenter pour parvenir aux honneurs, on perd plus de temps encore afin d'y faire arriver les autres. Candidats, sommes-nous à la fin de nos brigues, nous devenons solliciteurs pour autrui. Avons-nous déposé la pénible fonction d'accusateur? Nous aspirons à celle de juge. A-t-on cessé d'être juge? On veut présider le tribunal. Cet agent mercenaire a vieilli pour gérer la fortune d'un autre. Maintenant, la sienne l'absorbe tout entier. Marius a quitté la chaussure du soldat. Il devient consul. Quintius se hâte de déposer la dictature. Il va bientôt être encore une fois arraché à sa charrue. Il marchera contre les Carthaginois dès avant l'âge requis pour une si grande entreprise. Scipion, vainqueur d'Hannibal, vainqueur d'Antiochus, ornement de son propre consulat, caution de celui de son frère. Et si lui-même n'y met obstacle, il sera placé à côté de Jupiter. Plus tard, des citoyens séditieux n'en poursuivront pas moins le sauveur de Rome. Et après qu'il aura dédaigné dans sa jeunesse les honneurs qu'il eût égalés aux dieux, Sa vieillesse ambitieuse se complaira dans un exil sans terme. Jamais on ne manquera de motifs heureux ou malheureux de sollicitude. Les affaires nous interdiront le repos, toujours désiré, jamais obtenu. Chapitre 18. Séparez-vous donc du vulgaire, mon cher Paulinus, et pour entrer enfin paisiblement au port, n'attendez pas que toute votre vie ait essuyé la tempête. Songez combien de fois vous avez bravé les flots, combien de tempêtes privées vous avez soutenues, combien d'orages publics vous avez attirés sur votre tête. Assez longtemps, votre vertu s'est montrée dans les fatigues d'une vie pénible, agitée. Éprouvez ce qu'elle pourra faire au sein du repos. Vous avez consacré à la République la plus grande et certes la meilleure partie de votre vie. Prenez aussi un peu de temps pour vous. Ce n'est point à un repos plein d'indolence et d'inertie que je vous convie. Ce n'est ni dans le sommeil, ni dans les voluptés chéries de la foule que je veux vous voir ensevelir tout ce qu'il y a en vous de vivacité et d'énergie. Ce n'est pas là se reposer. Vous trouverez encore des occupations plus importantes que celles dont vous êtes si activement acquitté jusqu'à ce jour et vous y vaquerez à loisir et en sécurité. Vous administrez les revenus de l'univers avec autant de désintéressement que ceux d'autrui, autant de zèle que les vôtres, autant d'intégrité que ceux de la République. Vous savez vous concilier l'affection dans une position où il est difficile d'éviter la haine. Mais cependant, croyez-moi, mieux vaut s'occuper à régler les comptes de sa vie que ceux des subsistances publiques. Cette force d'esprit, capable des plus grandes choses, cessez de la consacrer à un ministère honorable, sans doute, mais peu probable à rendre la vie heureuse, et appliquez-la désormais à vous-même. Songez que si, depuis votre premier âge, vous avez cultivé assidûment de nobles études, ce n'était point pour devenir le dépositaire fidèle de plusieurs milliers de mesures de blé. Vous donniez de plus grandes et plus hautes espérances. On ne manquera point d'hommes qui joignent au goût du travail une intégrité scrupuleuse. Les bêtes de somme sont plus propres à porter un fardeau que les coursiers d'Horace. Qui osa jamais ralentir leur généreuse vivacité sous un lourd bagage? Réfléchissez, en outre, combien de sollicitudes entraîne une charge si pénible. C'est à l'estomac de l'homme que vous avez affaire. Un peuple affamé n'entend point raison. L'équité ne saurait le calmer, ni les prières le fléchir. Naguère, dans les journées qui précédèrent ou suivirent immédiatement sa mort, Caius César, si l'on conserve encore quelques sentiments dans les enfers, dut regretter amèrement de laisser le peuple romain sain et sauf, car il ne restait de subsistance que pour 7 ou 8 jours. Et tandis qu'avec des vaisseaux, il construisit des ponts et se jouait de la puissance de l'Empire, on était à la veille de subir le dernier des maux, même pour des assiégés, la disette. Peu s'en fallut que la mort, la famille et la ruine générale, qui en est presque toujours la suite, n'accompagna cette limitation d'un roi insensé, d'un roi étranger, si malencontreusement superbe. Dans quelle situation d'esprit durent être les magistrats chargés des approvisionnements publics? Menacés du fer, des pierres, du feu, de la fureur de Caius, ils mirent un soin extrême à dissimuler un mal qu'aucun symptôme n'avait encore trahi. C'était agir sagement, car il est des malades qu'il faut laisser dans l'ignorance de leur mal. Beaucoup d'hommes sont morts pour l'avoir connu. Chapitre 19. Cherchez donc un asile dans des occupations plus tranquilles, plus sûres, plus hautes. Veillez à ce que les arrivages du blé s'effectuent sans fraude, à ce qu'il soit soigneusement emmagasiné dans les greniers, de peur qu'il ne s'échauffe ou qu'il ne se gâte pas par l'humidité, enfin à ce que la mesure et le poids s'y trouvent. Pensez-vous que de tels soins puissent être comparés à ces saintes et sublimes études qui vous révéleront la nature des dieux, leurs plaisirs, leurs conditions, leurs formes, vous feront connaître la destinée réservée à notre âme, dans quel lieu doit nous placer la nature quand nous serons dégagés des liens corporels, quelle puissance soutient au milieu de l'espace les corps les plus pesants, au-dessus les plus légers, porte la matière ignée dans les régions les plus hautes, imprime aux astres leur révolution, produit enfin 1000 autres phénomènes encore plus merveilleux. Voulez-vous, abandonnant la terre, élever votre esprit à ces hautes connaissances? Maintenant que votre sang circule avec chaleur et que vous êtes dans la force de l'âge, dirigez-vous vers ces objets dignes de votre préférence. Vous trouverez dans ce genre de vie l'enthousiasme des sciences utiles, l'amour et la pratique de la vertu, l'oubli des passions, l'art de vivre et de mourir, un calme inaltérable. Dernier chapitre 20. La condition de tous les gens occupés est malheureuse. Plus malheureuse est celle des hommes qui chargent leur vie de soins qui ne sont pas pour eux, attendant pour dormir qu'un autre dorme, pour faire un pas qu'un autre marche, pour manger qu'un autre ait appétit. L'amitié, la haine, les plus libres de toutes les affections, sont chez eux à commandement. Ceux-là, s'ils veulent savoir combien leur vie est courte, n'ont qu'à supputer la part qui en revient à leur usage. Quoique vous les ayez vus souvent revêtus de la prétexte, quoique leur nom soit connu dans le forum, n'en soyez pas jaloux. Ces avantages, ils les achètent aux dépens de leurs jours, et pour le plaisir d'attacher leur nom à une année, ils perdront toutes celles de leur vie. Quelques-uns prennent leur essor ambitieux vers les hauts emplois, et dans cette lutte, dès leurs premiers efforts, la mort vient moissonner leurs jeunes ans. D'autres, après être parvenus à force de bassesse jusqu'au fait des honneurs, ont été affligés par la triste pensée qu'ils n'avaient travaillé que pour faire graver un 20 titres sur leur tombe. Il en est enfin dont la décrépitude, tout occupée des fraîches espérances qui ne conviennent qu'à la jeunesse, a succombé de faiblesse au milieu de leurs grands et malencontreux efforts. Honte à ce vieillard qui a rendu l'âme comme il défendait de vils plaideurs et recherchait les applaudissements d'un auditoire ignorant. Honte à celui qui, plutôt lassé de vivre que de travailler, a succombé au milieu de ses occupations. Honte à celui qui, expirant sur les trésors qu'il amassait, devient la risée d'un héritier qu'il a trop longtemps fait attendre. Je ne puis passer sous silence un exemple qui se présente à mon esprit. Turannius, vieillard d'une activité et d'une exactitude rare, était chargé de l'approvisionnement de Rome. Ayant, à l'âge de 90 ans, reçu de Caius César, sans l'avoir offerte, la démission de sa charge, il se mit au lit et ordonna à ses esclaves rassemblés autour de lui de le pleurer comme mort. Toute la maison s'affligeait du loisir de son maître, et les lamentations ne cessèrent que lorsqu'il fut rendu à ses fonctions. Est-il donc si doux de mourir occupé? La plupart des hommes ont le même désir, La manie du travail survit en eux au pouvoir de travailler. Ils luttent contre la faiblesse du corps et la vieillesse ne leur paraît fâcheuse que parce qu'elle les éloigne des affaires. La loi dispense à 50 ans de porter les armes, à 60 d'assister aux assemblées du Sénat. Les hommes ont plus de peine à obtenir le repos de même que de la loi. Cependant qu'ils sont entraînés et entraînent les autres, que l'un trouble la paix de l'autre, qu'ils se rendent réciproquement malheureux, la vie passe sans fruit, sans plaisir, sans aucun profit pour l'âme. Nul ne voit la mort en perspective, chacun porte au loin ses espérances. Quelques-uns même règlent, pour un temps où ils ne seront plus, la construction de vastes mausolées, la dédicace de monuments publics, les jeux qui se célébreront auprès de leurs bûchers, enfin, tout l'attirail d'orgueilleuses obsèques de magnifiques pompes funèbres. Mais, en vérité, les funérailles de ces gens-là devraient, comme s'ils avaient très peu vécu, se faire à la lueur des torches et des flambeaux.